Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du grain à moudre d'été, on est ensemble jusqu'à 19h. Avec une moyenne de 20 tweets par jour, avec à chaque fois des milliers de likes, de commentaires et de reprises dans tous les médias, Thomas Pesquet aura certainement été l'un des meilleurs communicants de la Station Spatiale Internationale. L'astronaute français vient de rentrer sur Terre après une mission de plus de 6 mois en apesanteur. Une aventure particulièrement suivie par les Français qui révèle peut-être que l'espace n'a pas perdu de son pouvoir de fascination sur les humains. Pour autant, la recherche spatiale et surtout les vols habités sont-ils vraiment une priorité pour la France? En période de crise économique et de montée des inégalités, difficile de ne pas se demander quelle est leur utilité pour la vie sur Terre. De fait, de nombreuses expériences scientifiques dans le domaine de la biologie ou de la médecine sont menées dans l'espace. Mais là encore, question, ces recherches ne pourraient-elles se dérouler sur Terre? Ou bien être commandées à distance par des robots, moins attachants certes, mais aussi moins dangereux et moins chers? Ou alors, faut-il au contraire revoir à la hausse nos ambitions spatiales, retourner sur la Lune, pourquoi pas, ou poser le pied sur Mars? Et si les États n'en ont pas les moyens, certaines firmes privées y pensent déjà. Alors, astronaute, un métier d'avenir? Eh bien, c'est le débat que nous aurons ce soir et je précise que cette émission a été enregistrée le jeudi 10 août. Et nous sommes en compagnie de 4 invités pour discuter ce soir. Françoise Pierrot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable des vols habités du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. À vos côtés pour discuter, Isabelle Tisserand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente de l'association 3i3s, anthropologue, expert sécurité et défense, notamment en charge du département de cybersécurité satellitaire et spatiale qui a été créé au sein de 3i3s. En un tout petit mot, 3i3s, vous nous dites de quoi il s'agit ?
3i3s a été créé il y a maintenant 15 ans par Philippe Boissat qui a eu le talent de fédérer aujourd'hui près de 1500 membres. Les missions de 3i3s, c'est d'abord du networking, de mettre en contact des gens absolument passionnés sur toutes les affaires aérospatiales. Ce sont aussi des actions pédagogiques avec 30 grandes écoles en bout de ligne et des actions humanitaires pour faciliter le transfert de technologies, mais aussi l'aide à des pays qui manquent de moyens. Nous avons fait un don global de 1 million d'euros, ce dont notre président Philippe Boissat est très très heureux.
Et les membres de 3i3s sont essentiellement des bénévoles. Notre troisième invité est en duplex depuis les studios de France Bleu à La Rochelle. Il s'agit de Jérôme Lamy. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien et sociologue des sciences, chercheur associé à l'Université du Mirail à Toulouse. Et quatrième invité est au téléphone, Patrick Baudry. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le deuxième Français à avoir été envoyé dans l'espace. Vous avez notamment participé au premier vol spatial franco-américain en 1985. Et vous êtes aussi l'auteur de Le rêve et l'espace, paru aux éditions du Chêne en 2002.
Bonjour à tous, je suis Thomas Pesquet dans la station spatiale pour 6 mois à faire des expériences scientifiques qu'on peut faire uniquement ici parce que sur Terre elles sont impossibles à faire.
Finalement, travailler en apesanteur, c'est hyper naturel. Au bout de quelques heures, on s'oriente à prendre les virages en 3 dimensions, monter, descendre, travailler à l'envers.
On entretient la station, on la répare, parfois on sort avec nos scaphandres. Et puis dimanche, quand on a le temps, on prend des photos. C'est la plus belle vue qui existe sur la planète. C'est ici que je passe mes nuits accroché au mur, super confortable de dormir en apesanteur.
On dort en flottant, comme ça on est retenu juste à la paroi de notre petite cabine individuelle.
On va aller regarder quel temps il fait par la fenêtre. Et voilà, dans l'espace, il fait toujours beau.
Quelques extraits donc du fameux Thomas Pesquet. Ces extraits sont issus d'un reportage qui a été diffusé au JT de 20h sur TF1 le 13 juin 2017. Jérôme Lamy, est-ce que vous avez l'impression que Thomas Pesquet aura ravivé quelque part la flamme de l'intérêt pour l'espace, ou est-ce qu'au contraire cet intérêt ne s'est jamais démenti selon vous?
En fait, c'est assez cyclique. Si on regarde dans une histoire au long cours depuis Spoutnik et depuis Apollo, globalement, on a eu une histoire qui s'est d'abord déroulée avec un enthousiasme assez important, une histoire projeter d'utopie. On imaginait dans les années 50 qu'on pourrait jouer au football sur la Lune. Dans les années 70, on vante encore l'idée qu'on pourra être diplômé d'une université de la Lune. Donc on a toujours eu jusqu'à Apollo une grande histoire. Après Apollo 11, on peut quand même noter globalement une baisse d'intérêt, notamment dans les médias, quand on étudie la presse. L'intérêt médiatique diminue et les critiques envers les vols habités se font de plus en plus nombreuses. Donc du coup, après régulièrement, on a une espèce de réinvestissement du spatial. Challenger aussi a eu un effet, j'allais dire déflationniste, c'est-à-dire ça a contribué largement à réactiver les mythes spatiaux. Et là, Thomas Pesquet s'inscrit typiquement dans cette activation-réactivation de l'imagerie spatiale.
François Spirot, la médiatisation de Thomas Pesquet, est-ce que c'est un phénomène anecdotique par rapport au reste de l'activité spatiale ou est-ce que c'est quelque chose auquel le CNES accorde de l'importance, voire encourage ?
Lorsque la sélection de Thomas a été faite en 2008-2009, Thomas a été sélectionné par l'Agence spatiale européenne, dont la France est le membre le plus important. Un des critères de la sélection a été justement les talents de communicants. Bien sûr, ce n'était pas forcément le critère numéro un. Le critère numéro un, c'est d'avoir les bons diplômes, d'être bien dans sa peau au sens physique, au sens psychologique du terme, d'avoir le savoir-faire qui va bien. Et bien sûr, l'objet principal des activités de Thomas dans la station, comme les autres astronautes, c'est de faire la science. Mais on s'est rendu compte au fil des années, au fil des missions habitées, qu'il ne suffit pas d'être bon ingénieur ou bon scientifique et de bien réaliser ce qu'on est censé faire dans la station, il faut aussi pouvoir communiquer là-dessus. Et donc, je répète, être bon communicant, savoir parler de manière très simple, très abordable aux enfants dans les écoles, au grand public, dans des conférences, etc., faisait partie des critères de sélection.
Alors ces missions pédagogiques hein, quelque part et de promotion des activités spatiales auprès du grand public, c'est une de vos activités à 3I3S, Isabelle Tisserand. Comment est-ce que vous êtes mis en lien avec cette activité très prolixe de l'astronaute français Thomas Pesquet ?
Alors il y a déjà 3 ans, lors d'une discussion avec Jean-François Clairvoy, à qui je pense il faut rendre un hommage ici, parce qu'il fait partie des communicants les plus incroyables et les plus stratégiques, nous avions cette réflexion très anthropologique qui était de dire, finalement, tout ce qui concerne les affaires spatiales et qui plus est satellitaire, reste tout de même assez élitiste. Or, nous avions vu déjà que quelque chose était en train de se dessiner pour le futur, aussi bien en termes d'emploi que de développement technologique. Et nous nous sommes dit, eh bien, il va falloir communiquer encore plus de manière différente, de façon à rendre le plus rapidement possible toutes ces connaissances totalement démocratiques.
Patrick, pardon, je vous laisse terminer.
Et c'est ce que nous avons réussi à faire, je pense, avec tous les membres de 3I3S, Jacqueline, Clairvoy, etc. Puisque maintenant, nous sommes sur LinkedIn et nous travaillons beaucoup à buzzer tout ce qui concerne la culture spatiale. Et on se rend compte qu'on arrive à toucher l'Inde, qu'on arrive même à toucher l'Afrique noire. Donc il y a un vrai changement culturel, il y a une vraie démocratisation qui est en train de se mettre en place. La culture spatiale doit être la culture de la génération actuelle et des générations futures.
Patrick Baudry, vous en tant qu'ancien astronaute, quel regard vous portez sur ce qu'on pourrait aussi appeler quelque part la Pesquet Mania hein, qui a eu lieu pendant ces 6 derniers mois? Est-ce qu'à l'époque, quand vous étiez dans l'espace, alors il n'y avait pas un tel usage des réseaux sociaux, mais s'il avait existé, est-ce que vous en auriez également fait usage?
Oui, je pense. En tous les cas, je suis très heureux que le CNES, au bout de 35 ans, ait compris qu'il était bon de communiquer, qu'il était bon de se servir justement de ces vols habités qui font rêver pour éduquer en fait le public sur le vol habité, mais surtout sur l'ensemble des activités spatiales. Mais enfin, il aura fallu du temps quand même. C'est assez étonnant. Je suis toujours étonné par l'inertie, le retard des administrations en général et du CNES en particulier dans ce domaine. Il faut bien comprendre que pour le CNES, le vol habité, c'est tout à fait accessoire. Le CNES est une grande organisation spatiale en ce qui concerne les lanceurs et les satellites. En matière de vol habité, c'est le néant. Donc, et de mon côté, je vous rappelle que j'ai ouvert quand même un centre spatial pédagogique, des écoles, etc. Et que, à l'époque, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il n'y avait pas les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui, les réseaux sociaux, la qualité des images, quand on voit les photos qu'a faites Thomas, qu'on a tous fait, hein, depuis 50 ans de conquête spatiale, il est frappant de voir à quel point le fait de pouvoir, d'avoir cette capacité de les diffuser dans une qualité excellente, c'est quelque chose qui est très percutant, qui est très positif. Donc tout ça m'a beaucoup réjoui. J'aurais aimé aussi qu'on communique sur les choses qui sont réellement importantes. Le vol habité, s'il consiste à tourner autour de la Terre, ça me paraît complètement dérisoire. En 2017, on n'est pas à l'âge de pierre du spatial. On a Gagarine, c'était il y a plus de 50 ans. Et donc, en même temps, je me réjouissais, en même temps, je me désolais de voir qu'on s'intéressait à des choses aussi élémentaires, si vous voulez.
Alors, on va laisser François Spiro du CNES vous répondre. Donc, malgré la médiatisation, les vols habités, comme le dit Patrick Baudry, restent un peu le parent pauvre de la recherche spatiale, François Spiro.
Alors oui, oui et non. J'aimerais commenter ce que vient de dire Patrick Baudry. Patrick Baudry a parfaitement raison de dire qu'au CNES, les priorités sont ailleurs que le vol habité. C'est effectivement la fameuse famille des lanceurs Ariane. C'est toute une série de satellites pour lesquels la France est reconnue comme un des leaders mondiaux. Ceci étant, la France fait partie du concert des nations et en dehors de la France, la quasi-totalité des grandes puissances spatiales font du vol habité, le font bien, je pense aux Américains, aux Russes, maintenant aux Chinois depuis quelques années, et beaucoup d'autres, et la France ne peut pas être absente. Donc, je dirais, l'idée selon laquelle la France est en retrait, ça se discute, mais qu'on soit ou qu'on ne soit pas en retrait, à la limite, peu importe, la France fait partie du club des grandes puissances spatiales, donc la France nécessairement a une activité de vol habité. Des fois, elle communique plus, des fois, elle communique moins. Depuis quelques années, elle communique beaucoup, en particulier liée à la mission Proxima de Thomas Pesquet. Et puis, un deuxième point quand même, sur ce qui vient d'être dit également par Patrick Baudry. Effectivement, en 2017, on peut se poser la question, comment ça se fait qu'on continue à tourner autour de la Terre à 400 km d'altitude? Pourquoi on n'est pas retourné sur la Lune? Pourquoi on n'a pas encore engagé véritablement de mission habitée martienne? Ce sont des bonnes questions. La réponse facile à ces questions, c'est le manque d'argent. Et puis, derrière le manque d'argent, il faut le dire, un certain manque de courage ou de volonté politique, pas simplement en France, en Europe et dans le monde, globalement, on va dire. Voilà, maintenant, la roue tourne, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, la roue tourne et toutes les agences spatiales principale dans le monde, et la France fait partie du club, se lance dans l'exploration habitée de la Lune et de Mars.
Alors justement, quant à l'intérêt, la volonté que les gouvernants peuvent mettre dans la recherche spatiale, quel rôle joue la médiatisation et l'intérêt du public? C'est-à-dire, est-ce que l'idée, quelque part, c'est de s'appuyer sur l'intérêt de l'opinion publique pour dire, bah voilà, on va augmenter les budgets, ce qui est quand même quelque chose qui n'est pas forcément évident, je le rappelais en introduction, dans une période où on est en train, ou plutôt de faire des coupes budgétaires dans des choses comme l'éducation, la santé, etc. Isabelle Tisserand.
De notre point de vue, il y a deux forces en présence. Il y a effectivement la force des politiques, mais enfin bon, on a tout de même assisté à beaucoup d'actions de communication à propos de Moon Village, qui est encore à l'état de concept.
Moon Village,
C'est le village lunaire, c'est un projet de village lunaire, donc de société artificielle en termes anthropologiques. Donc ça, c'est une première force, c'est-à-dire que l'idée est présente, le désir est présent, il est assez international. Si on se base sur les travaux du Congrès international des astronautes, où nous étions présents l'année dernière d'ailleurs, on sent bien qu'il y a un enthousiasme à penser à ce merveilleux projet qui pourrait être un projet intermédiaire pour ensuite se rendre sur Mars. Ça, c'est une première force, une première énergie. La deuxième énergie, elle est du côté des chercheurs. Chez 3i3s, on communique sur ces sujets, on fait de la recherche sur ces sujets. Qu'est-ce qu'on fait exactement comme recherche? On se dit que si un jour cette société artificielle venait à se créer, ce village lunaire international, il faudrait le cybersécuriser, il faudrait l'hyperconnecter. On n'empêchera pas les chercheurs de travailler à ce futur possible. Donc, il y a quelque chose qui est en marche, qui est en route. Je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. C'est en train de s'écrire.
Patrick Baudry, vous vouliez réagir. Est-ce que, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui on manque d'ambition en termes de recherche spatiale? Oui. Est-ce que les grandes explorations sont derrière nous, quelque part?
Clairement, il faut raisonner en matière spatiale. À l'échelle européenne, bien sûr. Ce que dit François Spirou est tout à fait exact. À une exception, c'est que la France, en matière de vols habités, est un nain. La France n'existe pas. Je suis pas d'accord du tout avec lui quand il dit que la France est un interlocuteur important ou majeur en termes de vols habités. C'est faux. On n'a aucune capacité de vols habités. Thomas, par exemple, était simplement un passager. Je dirais un touriste de l'espace pour lequel la France a déboursé quelques dizaines de millions d'euros. Pour moi, l'ambition de la France, elle doit se situer bien au-delà de ça, bien sûr, et celle de l'Europe surtout. On avait engagé à la fin des années 80 un grand programme qui nous permettait d'avoir une indépendance en Europe vis-à-vis des ennemis, des Chinois et des Russes, et d'envoyer des hommes dans l'espace, ce qui nous aurait permis dans l'avenir de nous intégrer à des programmes qui seront réellement importants lorsqu'on mettra le pied sur Mars et lorsqu'on ira exploiter les ressources lunaires. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, de concret. Il est dommage que les hommes politiques français n'aient absolument pas compris ces enjeux et qu'aujourd'hui on en soit là, une grande nation spatiale en matière de tout ce qui concerne l'espace, économique, satellitaire, robotique, scientifique, robotique et tout, est complètement inexistant, malgré ce qu'on dit. C'est pas parce qu'on envoie quelqu'un de temps en temps comme ça. Je vous rappelle que les Mongols ont été dans l'espace, pratiquement tous les peuples de la Terre ont été dans l'espace. Il y a eu plus de 1200 personnes qui ont été dans l'espace jusqu'à maintenant. Donc avoir un Français tout à coup en 2017 qui va dans l'espace et qui a un rôle tout à fait mineur dans la mission elle-même, je trouve ça quand même... Il faut quand même voir les choses en face pour réagir et aller plus loin.
Très, très concrètement, Patrick Baudry, l'avenir pour vous dans l'espace, c'est retourner sur la Lune et c'est aussi à terme explorer Mars. C'est ça les objectifs pour vous, enfin, des objectifs dignes de ce nom, si je vous comprends bien?
Oui, vous avez raison, Mélanie. D'abord, s'installer sur la Lune, on aurait dû le faire depuis fort longtemps pour exploiter les ressources lunaires et faire enfin de la vraie science sur la face cachée de la Lune. Ça, ce sont des enjeux importants en matière de recherche et en matière d'économie. Et puis, parallèlement à ça, bien sûr, préparer le premier voyage sur Mars qu'on aurait déjà dû réaliser. L'ISS, dont on nous rabat les oreilles, qui tourne sans fin autour de la Terre, a coûté déjà plus de 150, voire 180 milliards de dollars. C'est scandaleux. Avec de tels budgets, on aurait dû s'installer d'une manière permanente sur la Lune. La Lune est à 400 000 kilomètres, c'est tout. C'est tout. C'est un morceau de terre et que l'on n'est pas encore colonisé intelligemment pour le profit. Je trouve ça honteux de la part que ce soit les Américains, les Russes, les Français, les Européens. Il y avait des choses majeures à réaliser avec des budgets tout à fait comparables à ceux qu'on a dépensés et on ne l'a pas fait. Et il faut savoir reconnaître ça pour préparer l'avenir d'une manière plus intelligente.
Alors Jérôme Lamy, votre regard d'historien sur cette question, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque part eu une rupture dans la progression de la conquête spatiale, c'est-à-dire qu'on est allé très loin, très fort dans les années 70-80 et qu'ensuite il y a eu une retombée?
Alors oui, il y a une rupture, mais elle se situe à mon avis à un autre niveau, c'est-à-dire que il faut se souvenir que le début de la conquête spatiale, c'est un moment géopolitique très particulier. C'est la compétition entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'est à partir de ça constitue le carburant principal de la compétition spatiale. À partir du moment où donc c'est une motivation politique énorme. Le budget de toutes les missions Apollo, c'est 170 milliards de dollars. Pour investir ça, il faut un intérêt politique majeur. Il faut que les dirigeants politiques y trouvent leur intérêt, qui est un intérêt de représentation, de d'héroïsation de ceux qui sont projetés dans l'espace. À partir du moment où vous êtes allé sur la Lune et que le gain politique a été gagné en 1969, on va dire qu'on est plutôt rentré dans une ère dépressive, quoi. C'est-à-dire que le gain politique n'est plus substantiellement aussi important. En période de restrictions budgétaires, envisager d'aller sur Mars, le gain politique, le rapport, pardon, coût-bénéfice paraît un peu compliqué. Donc, du coup, il y a eu une rupture, mais parce que on a oublié que l'objectif politique a été atteint par les Américains, c'est-à-dire que eux voulaient dépasser. Et supplanter les Soviétiques. Ils avaient été très piqués dans les années 50 et 60. Ils n'ont pas le premier homme dans l'espace. Ils n'ont pas le premier Américain. C'est quelques semaines après le premier Soviétique. Ils n'ont pas le premier vol le plus long dans la journée, le premier vol qui fait plus de 24 heures dans l'espace, etc., etc. Donc ils ont été très piqués de tout ça. Donc il y a une espèce de substrat politique extrêmement important. Et qui après, alors je vais prendre un autre exemple, dans les années, au début des années 90, on prévoit pour l'Europe le projet Hermès qui est abandonné en 1992, mais parce que il manque le carburant politique pour faire fonctionner.
Jérôme Lamy, vous êtes en train de nous dire que la principale motivation pour aller dans l'espace, c'est la compétition entre les nations. Ça veut dire en creux que le contenu de l'exploration spatiale n'a pas d'intérêt scientifique majeur en soi.
Le contenu, moi j'ai étudié un petit peu comment s'est passé par exemple les expériences de microgravité. On s'aperçoit que dans l'espace et dans la station internationale, on a ce qu'on appelle une microgravité dégradée. C'est-à-dire qu'en gros, les conditions pour obtenir la microgravité sont pas très bonnes parce que, en particulier, il y a des astronautes. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre un certain nombre de dispositifs en place qui donnent des vibrations, etc., et qui empêchent une bonne microgravité qu'on peut avoir de façon meilleure sur Terre ou alors sur des plateformes spatiales qu'on envoie mais sans humains. Donc du coup la microgravité, c'est un vrai serpent de mer de la recherche spatiale. On promettait des nouvelles molécules chimiques pour des médicaments, pour des alliages, et l'industrie a lâché cet emballement là notamment à cause des effets de rayonnement cosmique sur les molécules créées. Donc du coup, scientifiquement parlant, je crois que c'est Serge Brunier qui, dans son livre Impasse de l'espace, rappelait que une des principales réussites d'Apollo, ça avait été de poser un miroir sur la Lune, et on avait pu avoir une mesure de la distance Terre-Lune extrêmement précise, mais que 170 milliards de dollars, ça faisait cher la mesure.
François Spiro, sur on est peut-être au cœur du sujet là, sur l'intérêt finalement de ces vols habités dans l'espace. Est-ce que c'est relayer la compétition entre les nations, un intérêt politique finalement, et puis scientifique peut-être pas si important que ça?
Alors il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites et j'aimerais effectivement réagir sur plusieurs des points. Le premier point, c'est sur cette affaire politique, sur cet aspect politique des choses. Je partage tout à fait ce qui a été dit. Les vols habités, bien plus que les autres activités spatiales, sont éminemment politiques. Et c'est assumé par le CNES et par, je crois, la quasi-totalité des agences spatiales. J'aimerais vous faire part d'une anecdote. Patrick Baudry disait tout à l'heure, il n'y a pas une volonté forte en France pour le vol habité. Et je pense qu'il a raison. Mais ce n'est pas qu'en France. À la fin des missions Apollo, au début des années 70, les hauts responsables de la NASA sont allés voir le président américain de l'époque, Richard Nixon. Ils ont dit, Monsieur le Président, voilà, nous sommes en train de terminer les missions Apollo, tout s'est super bien passé, on est très contents. Thank you very much, Mr. President, de nous avoir donné l'argent et le soutien politique pour faire ces missions. Et maintenant, cher Mr. Nixon, l'étape prochaine, c'est l'exploration humaine de la planète Mars. Soyez gentil, Monsieur le Président, sortez votre porte-monnaie et donnez-nous l'argent qu'il faut pour réaliser l'étape d'après, qui est donc l'exploration de Mars. Réponse de Richard Nixon, qui n'avait pas du tout envie d'ouvrir son porte-monnaie. Mars will always be there. Mars sera toujours présent. Sous-entendu, si on ne le fait pas aujourd'hui, on le fera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, etc. Donc, pourquoi je donne cette anecdote ? Pour montrer que, en particulier ce que dit Patrick Baudry, mais d'autres le disent aussi, qu'il faut aller plus loin, qu'il faut mettre l'argent et les efforts sur l'exploration humaine de la Lune et de Mars. Oui, je crois que c'est partagé par tout le monde, en particulier au CNES ou à l'Agence spatiale européenne. Le problème, c'est la volonté politique et derrière la volonté politique, le financement qui va avec. Et puis, je voudrais également rebondir sur les affaires de microgravité qui ont été dites par Monsieur Lamy. Alors, la science en général et la science en microgravité en particulier, c'est rarement des grandes découvertes qui révolutionnent la face du monde. On n'a pas des Einstein tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Et en particulier, donc, dans le domaine de la microgravité. Donc,
juste pour bien comprendre, l'idée, c'est de se rappeler que si on fait des expériences scientifiques dans l'espace, c'est pour profiter de la situation d'apesanteur.
Exactement. Sachant donc que la station spatiale est en apesanteur, les astronautes, les 6 astronautes de l'ISS sont en apesanteur. Et le but principal, effectivement, de l'ISS, c'est un des plus grands laboratoires du monde, c'est de faire la recherche en apesanteur. Ce que nous appelons dans notre jargon la microgravité ou la micro-pesanteur.
C'est-à-dire que l'apesanteur va apporter, c'est pour bien expliquer, mais va apporter des dimensions à la recherche sur des molécules, sur des bactéries. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses sur le domaine de la santé qu'on ne peut pas recréer sur Terre.
L'intérêt principal, c'est pas le seul, mais principal, de faire de la recherche scientifique en apesanteur, comme dans l'ISS, c'est le fait que, quand vous êtes sur Terre, vous avez la force de la gravité qui nous maintient debout, qui nous maintient assis, qui maintient tout, entre guillemets, collé sur la Terre. Lorsque vous êtes dans l'espace, vous n'avez plus cette grosse force. Donc tous les phénomènes physiques qui existent sur Terre, mais qui sont complètement masqués par la virulence, par la puissance de la force de la gravité, soudain apparaissent au grand jour. Et c'est ça un des attraits importants de l'ISS, de la recherche dans l'ISS. Et ouais, donc, juste pour conclure, les travaux en microgravité qui sont faits dans la station, c'est pas ceux-là qui vont forcément révolutionner la science, c'est pas Einstein tous les jours, on est bien d'accord, mais c'est quand même des progrès pas à pas qui font quand même progresser la science.
Isabelle Tisserand, vous vouliez réagir également.
Oui, je voudrais réagir, permettez-moi un petit décollage. Je me demande si... je crois qu'il ne faut pas passer à côté de certaines prises de conscience en matière d'enjeux. D'abord, il faut se souvenir qu'en 2030, la planète sera peuplée d'à peu près 8,59 milliards d'hommes et que forcément se pose la question d'une expansion ailleurs. D'autre part, culturellement, nous le savons, c'est profondément ancré dans notre ADN. Nous avons un gène de l'exploration. Depuis Homo sapiens, vous pourrez le constater aussi bien que tous les anthropologues de la Terre, l'homme, la femme, ils ont besoin de découvrir, ils ont besoin d'explorer, ils ont besoin de dépasser certaines limites. Donc, je pense qu'il serait intéressant de raisonner dans les courts, moyens, long terme. Aujourd'hui, le court terme, c'est de se dire, il y a un événement réel, qui est qu'aujourd'hui, nous avons un homme très symbolique, qui s'appelle Thomas Pesquet, qui a des qualités d'empathie, qui a des qualités de communicant, qui a des qualités scientifiques. C'est un homme rare, c'est une ressource humaine extrêmement rare, qui nous projette vers quelque chose de bien plus vaste. Nous savons que certains pays, et en Europe en particulier, on est en train de réfléchir à l'exploration des météorites. Il y a un certain nombre de vidéos qui circulent sur le web qui vous montrent à quoi ça va ressembler. Il va bien falloir les former, ces personnes qui vont partir faire de l'exploration. On est dans des dimensions de moyen terme. Et puis à plus long terme, on pourrait peut-être réfléchir à une autre idée qui bien entendu est taboue, qui bien entendu bouscule nos référentiels, qui est que ce concept de village lunaire ou ce concept de voyage sur Mars, c'est peut-être dans l'histoire de l'humanité l'événement le plus important parce qu'il va peut-être enfin permettre une action internationale, interculturelle, pacifique, de fait. Parce que ça va se jouer dans des extrêmes, des extrêmes technologiques, des extrêmes en matière de compétences physiques, psychiques, sociales, des humains que nous allons projeter vers Mars à un moment donné, parce que nous sommes persuadés qu'on ne reviendra pas en arrière et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les choses sont en train de s'écrire. Et Thomas permet de réfléchir à ces grandes idées. Je pense qu'il faut dépasser ce qui se passe actuellement. Ben oui, c'est compliqué, il y a une crise économique, il y a des crises politiques, etc. Mais enfin, il faut penser très, très long terme.
Alors, ce ne sont tout de même pas des contingences qu'on peut balayer aussi facilement. Patrick Baudry, vous vouliez réagir également?
Oui, oui, je souriais, excusez-moi. Mais si vous voulez, fondamentalement, l'espèce humaine qui vit sur la planète Terre est la seule espèce vivante qui a une caractéristique extrêmement particulière et que n'a aucune autre espèce vivante. Cette caractéristique, c'est la curiosité. C'est ce qui nous permet de rêver, c'est notre imagination, notre ce que l'on peut construire, ce que l'on peut découvrir. Et on est en perpétuelle recherche de la raison pour laquelle nous existons dans l'univers. Et ça s'appelle la recherche fondamentale. C'est un processus qui a poussé l'homme depuis que notre espèce existe, qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. Et d'une manière générale, l'espace, évidemment, est une interrogation fondamentale. Et il faut que l'homme s'y projette, il s'y est projeté. Alors pour des raisons éminemment politiques, comme l'a rappelé Jérôme Lamy tout à l'heure, mais je pense qu'il y a des raisons qui peuvent être autres que politiques, plus nobles, et qui sont aussi fortes. Le problème, c'est que les hommes politiques qui dirigent le monde aujourd'hui dans les différentes nations manquent singulièrement de vision. Il faut avoir une vision à 20 ans, 30 ans, 50 ans, voire un siècle, pour être capable de concevoir un grand projet pour un État. Et la France n'est pas un grand pays. La France peut être un grand pays dans le cadre de l'Europe, et l'Europe peut être une grande nation. Moi, je crains que les rêves un petit peu, optimistes d'Isabelle Tisserand s'évanouissent complètement devant la réalité des choses. Si nous ne sommes pas présents en tant qu'Européens, dans le vol habité, mais avec une véritable place, pas une place de passagers aujourd'hui payant, comme on l'a vu avec Thomas et les centaines d'autres qui sont comme Thomas. Il n'y a pas de problème là-dessus. On peut trouver des milliers de gens qui sont prêts à aller dans l'espace et prêts à y travailler convenablement. Non, le problème, c'est qu'il y a une véritable volonté que l'Europe soit capable, pour les enjeux futurs, qui peuvent arriver assez vite, hein, dans les 10, 20, 30 ans, parce que les Chinois ont compris que des enjeux économiques importants se dérouleraient très bientôt dans l'espace, et ils seront prêts à affronter ces enjeux. Je ne pense pas que la France ou l'Europe puissent être présents dans des grands programmes lunaires ou martiens, s'ils n'ont aucune capacité réelle à avoir une action forte techniquement dans ces grands programmes, et s'ils n'ont pas prouvé déjà un savoir-faire. C'est ça que je crains simplement pour notre Europe et notre France. La France a été le moteur de l'espace pour l'Europe. Elle a toujours été leader. Et il est dommage de voir que ces compétences aujourd'hui ne soient pas utilisées à plein. Voilà.
Jérôme Lamy, à quel point est-ce que il faut considérer que l'activité dans l'espace ne doit pas du tout se poser la question de ses retombées pour la vie sur Terre à court terme, et quelque part est-ce que l'espace doit échapper à la logique, on va dire, de rentabilité qui s'applique pour tous les autres domaines de l'industrie?
Alors je saurais pas exactement vous dire si l'espace doit échapper ou pas à la logique marchande. Ça m'étonnerait que l'espace y échappe, étant donné la prise néolibérale actuelle. Mais je voulais revenir sur ce qui a été dit sur cet effet de naturalisation, c'est-à-dire l'homme serait naturellement porté à conquérir l'espace. C'est un discours qu'on retrouve depuis le début de la conquête spatiale. Jusqu'à preuve du contraire, je crois pas qu'on ait trouvé le gène de l'espace dans l'ADN humain. Et donc du coup, ça fait partie de tous les discours
qu'on l'a pas cherché.
Classiquement répétés depuis les années 50, qui consistent en fait, et ça fait oublier ce discours-là, cette naturalisation-là, ça fait oublier tous les rapports de force sociaux, politiques et même culturels, parce que l'espace, c'est aussi un formidable carburant mythologique. Et donc ça a une importance considérable, et donc ça joue un rôle absolument important dans les sociétés humaines, mais je pense pas que ce soit le rôle qu'on reconstruit à chaque fois, à chaque nouvelle mission ou à chaque nouvelle relance politique ou pas politique. À chaque fois, ce sont d'autres motivations qui sont sous-jacentes. Elles peuvent être de l'ordre de la géopolitique dans les années 50-60. Elles peuvent être d'un autre ordre, d'un ordre économique. On sait très bien que le début des télécommunications spatiales, c'est aussi une compétition économique assez importante. Et donc, pour rebondir sur votre question, l'espace, si, doit être pris dans une espèce de force politique importante, ça va être celle de l'économie, celle de la valence économique qui va ou non porter. On parle des investisseurs, on parle d'Elon Musk, on parle de des gens comme ça dans la Silicon Valley qui veulent investir dans le spatial. C'est parce que en fait, c'est un nouveau rapport de force qui se joue là, qui est en train de se nouer. Ça n'est pas à mon sens, ça n'est pas une naturalisation de la volonté humaine. C'est vraiment, on est toujours pris dans un ensemble de contraintes économiques, politiques et culturelles. Et qu'elle joue à plein à chaque fois.
Isabelle Tisserand.
Oui, je voudrais réagir. Je pense que le rapport de force est un choix de position et qu'il en existe d'autres. Lorsqu'on entend Elon Musk ou Jeff Bezos ou tous ces grands acteurs qui ont envie de soutenir les projets de court, moyen, long terme, on se rend compte qu'il peut y avoir un autre état d'esprit à l'origine de tous ces projets. Ce qu'on constate, et c'est pas mon avis, c'est ce qui ressort de l'observation des travaux de recherche, et Dieu sait qu'en France, nous avons des pépites en matière de recherche scientifique. Depuis quelques années, les sciences humaines et sociales sont particulièrement invitées à venir réfléchir, à venir s'associer au monde des ingénieurs, pour le développement de la vie dans l'espace, exoplanétaire, extraplanétaire, etc. Et que c'est là que l'on constate qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge, notamment dans les analyses de moyen et de très long terme.
Alors on a parlé à l'instant d'Elon Musk, je vous propose d'écouter sa voix tout simplement.
Ce que nous aimerions faire, c'est établir une ville sur Mars et aider à faire de l'humanité une espèce multiplanétaire, une civilisation explorant les étoiles. C'est ça le but ultime. Je ne dis pas que nous y arriverons, je dis juste qu'on va essayer. La NASA a appelé et nous a dit que nous avions remporté un contrat de 1,5 milliard de dollars. Voir la civilisation et la vie telles que nous les connaissons s'étendre au-delà de la Terre, au reste du système solaire et même à d'autres systèmes solaires, c'est ça l'avenir qui est excitant et inspirant. Je pense que c'est important que l'humanité devienne une espèce multiplanétaire. Je pense que la plupart des gens conviendront qu'un futur où nous serons une civilisation de l'espace est inspirant et excitant, plutôt qu'un où nous serons pour toujours confinés sur Terre jusqu'à une possible extinction. Et c'est vraiment pour ça que j'ai créé SpaceX.
Elon Musk, donc l'entrepreneur et milliardaire, notamment fondateur de la société SpaceX, qui est la première compagnie à avoir réussi, compagnie privée à avoir réussi l'envoi d'une fusée dans l'espace. François Spirou, aujourd'hui, des entreprises privées comme SpaceX travaillent déjà avec les États, elles sont déjà partenaires de la NASA notamment. Est-ce qu'il faut imaginer demain qu'elles auront une place encore plus importante ?
Effectivement, la question est très importante. J'écoutais avec attention tout ce qui vient d'être dit et on est à un carrefour dans les activités du vol habité. Jusqu'à maintenant, que ce soit en France, en Europe, et soit dit en passant, je rejoins tout à fait Patrick Baudry, la France seule est un petit pays sur les affaires de vols habités, mais la France est intégrée dans l'Europe et l'Europe, par contre, est une grande puissance spatiale. Parenthèse refermée. Pourquoi je dis qu'on est à un carrefour ? Jusqu'à présent, depuis les années 50 ou 60, le spatial habité a été exclusivement porté par les puissances institutionnelles, par les États, par les impôts, vos impôts, mes impôts. Le monde est en train de changer, on a entendu Elon Musk. De plus en plus aux États-Unis, mais également dans d'autres pays, vous avez des investisseurs privés qui souhaitent investir, c'est le cas de le dire, pour envoyer des hommes dans l'espace, que ce soit pour des projets industriels, scientifiques, touristiques, etc. Par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'à l'exception notable de l'initiative d'Elon Musk qu'il a annoncée en septembre dernier, la quasi-totalité des investissements ou des annonces des investisseurs pour mettre de l'argent dans les activités spatiales habitées sont pour l'orbite basse, c'est-à-dire l'orbite où il y a aujourd'hui l'ISS, où il y aura demain, en plus de l'ISS, la station spatiale chinoise. On a parlé depuis quelque temps de la Lune et de Mars. Très peu d'investisseurs privés sont prêts à mettre les milliards d'euros ou de dollars qu'il faut pour aller vers la Lune et vers Mars. Ça reste l'apanage des États.
Et juste un mot encore. On peut le comprendre.
Et on peut le comprendre parce qu'il s'agit de sommes folles. Et pas simplement de sommes folles, aussi parce que la prise de risque est énorme. Un investisseur, il va chercher à avoir un retour sur investissement rapidement, au bout de quelques années typiquement. Quand on envoie des bonhommes sur la Lune ou sur Mars, par exemple le village lunaire dont parlait Madame Tisserand, c'est passionnant, c'est très intéressant, ça fait bouger plein de lignes, mais il y a une prise de risque au niveau de l'équipage, au niveau des technologies, etc. Donc c'est essentiellement que les gouvernements qui peuvent faire ça.
Alors, pour faire réagir tout le monde, Patrick Baudry, quel regard vous portez-vous sur l'investissement des privés, et notamment des gens comme Elon Musk, dans la conquête spatiale ? Est-ce que pour vous, quelque part, ça va être l'avenir un peu des astronautes ?
Ben pour moi, si vous voulez, après, disons, une quinzaine d'années de vie d'interplanétaire en matière de vols habités et de volonté, Elon Musk, ça a été comme le réveil, le soleil qui s'allume dans l'univers. Elon Musk, pour moi, c'est Dieu.
Et
il a des SpaceX, vous l'avez mentionné comme ça, presque en aparté, mais aujourd'hui a une capacité de lancement qui est équivalente à celle d'Ariane et de l'Europe, à des prix qui sont largement concurrentiels de ce que l'on sait faire. Et là aussi, il y a une remise en cause très, très sérieuse. Ariane 6 compensera un peu notre retard, mais moi j'admire quelqu'un comme Elon Musk qui a su, par sa volonté propre, avec ses moyens propres, investir, gagner et bouleverser complètement l'industrie des lancements spatiaux. Et lui est un rêveur. Je disais tout à l'heure que le rêve est vraiment le moteur le plus important de notre espèce, même si tout le monde ne rêve pas, mais il y a des grands rêveurs et qui ont fait avancer l'humanité. Et je pense qu'Elon Musk est tout à fait de ce type. La NASA l'a très bien compris, hein, qui travaille maintenant avec lui d'une manière très étroite. Et c'est grâce à des gens comme ça qu'on pourra le manque de volonté politique par des aspects à la fois économiques et des choses qui peuvent nous porter. Je veux dire, le tourisme, l'orbite basse autour de la Terre dont on parle sans cesse avec cette ISS qui a coûté beaucoup plus cher que le programme Apollo, hein, je le rappelle au passage, le tourisme spatial, c'est une activité fondamentale qui va se développer. Et j'espère que nous, Européens, nous, Français, on en prendra notre part, parce que l'orbite basse autour de la Terre, l'homme sur cette orbite, la seule raison que j'y vois, c'est le tourisme, dans son rendement le plus noble, qui est d'avoir une vision telle que c'est un enrichissement personnel grandiose, pouvoir voir sa planète de l'extérieur, c'est quelque chose de sublime, et je souhaite que le plus possible de gens puisse avoir ce privilège.
Alors je vous coupe, Patrick Baudry, pardon, parce qu'on arrive presque à la fin de l'émission. Isabelle Tisserand, est-ce que, je ne sais pas si vous aussi vous considérez Elon Musk comme Dieu, mais est-ce que ce n'est pas un peu problématique à l'avenir si les décisions en matière de conquête spatiale se relèvent uniquement du privé et non plus des États ?
Alors, plutôt que rêve, j'utiliserais le mot espoir dans l'humanité. Parce que ça, c'est un moteur pour tous les développements dont nous venons de parler. Je crois qu'il y a quelque chose de nouveau. Nous sommes à l'ère des charismatiques. Thomas Pesquet est un charismatique. Elon Musk est un charismatique. Jeff Bezos. Et on en voit apparaître un certain nombre qui vont probablement être les meilleurs moteurs pour le développement de la vie spatiale.
Eh bien, merci pour cette conclusion. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. François Spiro, Isabelle Tisserand, Jérôme Lamy et Patrick Baudry. Les références, les ouvrages, les liens, les infos, mais aussi la réécoute de cette émission et de toutes les autres, c'est comme toujours sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été, du Grain à Moudre émission préparée par Philippine Lebray, Juliette Montilly, Isulte Sicard, Pierre Testard et Cédric Fuentes. Réalisation Romain Masson. Prise de son Alexandre Dang.